OK, 18h02 de retour en studio pour la dernière heure de l'émission. Juste avant de parler avec Paul Oud, comme on le fait à chaque soir à la même heure, ben, je vais vous donner le bilan de la COVID au Québec et au Canada. Donc, Canada, total 8505, c'est une hausse de 13% sur hier, 101 morts au total. Québec, 4162, c'est une hausse de 21,3% sur hier. Décès, 31 décès. Dans le monde, c'est 854 000 cas, 42 000 décès. Et là-dessus, ben, on accueille Paul Oud pour aller au-delà des chiffres, au-delà des nouvelles. Salut, Paul!
Salut, Patrick. Oui, parce que au-delà de ces chiffres, il y a des gens. Il y a des gens qui meurent et ce coronavirus, on peut associer des visages. Il n'y a personne qui est épargné.
Ben c'est ça, hein? Écoute, aujourd'hui, on a appris que notre ami, le journaliste du Journal de Montréal, le Journal de Québec, Antoine Robitaille, chroniqueur politique, est atteint de la COVID.
En fait, il aurait guéri.
Il a été atteint.
Il a été atteint, semble-t-il qu'il est rétabli. Il est rentré de France, le 14 mars, mais ce n'est que 8 jours plus tard qu'il a ressenti les premiers symptômes, le 22 mars, donc il y a exactement 9 jours. Il a ressenti simplement des frissons, mais il dit qu'il a eu vraiment peur lorsqu'il a perdu le goût et l'odorat, oui, soudainement, et il semble qu'il aurait probablement amené de France la souche S, dont je t'ai déjà parlé. Ça, c'est la souche originale, celle de Wuhan, et non pas la souche L, qui, elle, serait plus virulente. Alors, Antoine espère que c'est derrière lui. On va lui souhaiter, évidemment, que ce soit le cas. Mais quand je disais qu'on peut mettre des visages sur la COVID-19, la conjointe de Justin Trudeau, Mme Sophie Grégoire, le prince Charles, des joueurs de la NBA, de la Ligue nationale de hockey, le grand saxophoniste Manu Dibango est mort à Paris la semaine dernière. Une excellente journaliste de CBS qui est décédée à 54 ans lundi matin, donc hier, Maria Mercader. Et on a appris vers midi que Chris Cuomo, l'animateur de l'émission de fin de soirée à CNN à 21h, le frère, oui, du gouverneur de l'État de New York, a la COVID-19. Et c'est son frère, le gouverneur de l'État, qui fait face évidemment une situation catastrophique, non seulement dans la ville de New York, mais dans son État, qui en a parlé aujourd'hui. Eh bien, Chris Cuomo sera en onde. Il va quand même animer son émission de son sous-sol à 21h ce soir.
Et c'est ça, il a envoyé un message sur Twitter pour dire, écoutez, j'ai été exposé à des gens qui l'ont eu. J'ai eu un petit peu de fièvre, j'ai eu des frissons, j'ai eu de la misère à respirer. Maintenant, ça va un peu mieux. Mais il dit, j'espère juste que je l'ai pas donné à mon épouse et à mes enfants.
Et surtout à sa mère, parce que le gouverneur, son frère, a dit aujourd'hui, mon frère est très courageux, il va passer au travers sans doute, mais il a commis une grave erreur et je lui ai dit, il a hébergé sa mère pendant quelques jours. Mmh. Alors, on espère que ce sera pour le mieux. Je voudrais te parler également d'un grand neurochirurgien pédiatrique, le docteur James Goodrich, qui lui aussi est mort de la COVID-19, un des plus grands scientifique, médecin, neurochirurgien au monde. Imagine, il se spécialisait, lui, dans des opérations extraordinaires pour séparer des enfants siamois qui étaient reliés par la tête. Alors, il a pratiqué plusieurs opérations dans le passé qui ont été réussies. Ces enfants ont retrouvé des vies normales. Ils sont pleinement épanouis. Chaque opération demandait pour lui et son équipe 27 heures consécutives en salle de chirurgie. Des mois de préparation et il est mort de la COVID-19 hier matin.
OK, parle-moi y a-t-il une mise à jour à faire, Paul, sur le développement d'un ou de plusieurs vaccins, là?
Quelques-unes. Quelques-unes parce que Moderna n'y aide. Je t'en ai parlé.
Oui.
N'y aide, c'est l'organisme qui est dirigé par le docteur Anthony Fauci, accélère les tests cliniques, on est toujours en phase 1 de 3. Et là, maintenant, on a étendu ça à l'Université Emory d'Atlanta. À Seattle, on teste maintenant 45 cobayes humains et presque autant à l'Université Emory d'Atlanta. Mais plusieurs grands virologues mettent un bémol. Le docteur Peter Hotez dit qu'il faudrait un alignement total des planètes pour arriver à une projection de vaccin entre 12 et 18 mois. Un des plus grands virologues, le docteur Paul Hoffit, ça c'est le co-découvreur du vaccin contre un virus qui s'appelle le rotavirus, lui n'y croit pas. Alors, je préfère vous le dire, là, je donne ça comme ça. Le docteur Amesh Adalja, qui est un autre grand expert en matière de virus, dit « Voici le problème. La clé du vaccin, c'est de le rendre efficace sans danger et le rendre accessible à plus d'un milliard, sinon 2 milliards d'individus, dans un aussi court laps de temps. » Il dit « Ce serait un miracle. » D'accord?
Lui, ce qu'il dit, c'est même si on en trouve un demain matin, après ça, se pose le problème de la distribution à l'humanité. C'est ça?
Et non seulement ça, les deux autres phases. Mettons qu'on découvre le virus, on doit passer aux tests cliniques sur des centaines d'humains, phase 2, et la phase 3 sur des milliers ou des dizaines de milliers d'humains. Dans le passé, on a eu une expérience très douloureuse, alors qu'en 76, le président américain Gerald Ford avait ordonné une campagne de vaccination massive contre la grippe porcine. 45 millions de personnes ont reçu le vaccin. On s'est aperçu finalement que le virus s'était affaibli de lui-même. Sauf que 450 personnes ont développé le syndrome très grave de Guillain-Barré, qui conduit à une grave forme de paralysie.
OK, et parle-moi là du plus probable des scénarios là pour la suite des choses là selon les experts en virologie.
Alors, si on continue de suivre les consignes, les Américains sont en confinement et en distanciation, le président américain a poursuivi jusqu'au 30 avril cette consigne. Voici ce qui risque de se passer dans le meilleur des cas. Il faut développer le plus rapidement possible des médicaments pour permettre la récupération du plus grand nombre possible de personnes. Plus on aura un échantillonnage de patients rétablis, plus le coronavirus a des chances de s'affaiblir dans sa propagation. Moins la propagation sera forte, plus on pourra graduellement relâcher les mesures de confinement et de restriction. Donc, il est possible de penser que dans quelques mois, un retour au travail contrôlé, de façon stricte, un retour à l'école aussi est pensable. Mais les experts s'entendent, rien ne sera plus comme avant. Alors, en parallèle, le développement d'un vaccin est primordial, mais va prendre du temps.
Paul, qu'est-ce qui va... Tu sais, tu dis, selon les experts, rien ne sera plus comme avant. Toi, là, qu'est-ce qui te frappe comme étant la chose qui ne sera plus comme avant, que ce soit dans nos vies individuelles ou collectives?
La liberté de mouvement. L'industrie qui va sortir le plus amochée dans les prochains mois, c'est le tourisme. Alors, les gens, toi et moi et d'autres personnes, on pouvait rêver d'une petite escapade à Cancun l'hiver. D'autres rêvent de visiter l'Europe. Je ne pense pas que ce sera possible pour les prochaines années. Il va y avoir, malheureusement, je crois, des faillites retentissantes, en commençant par les compagnies aériennes. Donc, dans la liberté de mouvement, Patrick, je crois que c'est là où on va le plus ressentir le retour à la normale. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de temps. 2 ans, 3 ans peut-être pour que le vaccin puisse commencer à faire ses effets parce qu'il faut se protéger à tout prix des prochaines vagues. Il faut pas que ce coronavirus revienne en octobre, en novembre, en février de l'année prochaine. Tu comprends?
Oui, oui.
Alors voilà. Donc,
imagine, Paul, l'industrie de la croisière. Déjà, avant le coronavirus, il arrivait qu'il y avait des éclosions sur des bateaux de croisière, par exemple, de gastro-entérite. Aujourd'hui, là, demain, après-demain, qui va vouloir aller en croisière?
Tu l'as dit, ça va être probablement le secteur le plus touché. Par contre, il y a toujours des, comme on dit, des bonnes nouvelles dans une situation chaotique. Le tourisme local, la redécouverte du Québec, qui est tellement beau et tellement grand.
Qui est magnifique.
Grand. Maison. Alors, je te dis simplement que les animaux, eux, ne se badrent pas de savoir s'ils sont confinés ou non. Je termine là-dessus.
Parle-nous des chefs du Pays de Galles.
Écoute.
J'ai vu les images.
Oui, t'as vu les images. Ouais. Au Pays de Galles, il y a une petite ville où tout le monde est pareil comme nous, en confinement et en distanciation. Qu'est-ce que les chèvres qui abondent ont fait? Elles ont pris le contrôle de la ville. Des centaines de chèvres font la loi en mangeant tout ce qu'elles trouvent sur leur chemin, des fleurs, des arbustes et le gazon des habitants.
C'est surréaliste, les images. tapez dans Google « chèvres et Pays de Galles », vous allez tomber dessus tout de suite.
Et tu sais, Patrick, comment les Anglais, les Gallois et les Écossais aiment leur gazon frais taillé et bien vert. Une catastrophe. Il regarde par la fenêtre les chèvres qui ont maintenant pris le contrôle de leur ville.
Ça pourrait être le début d'un film d'horreur, ça.
Merci, Paul. En anglais, The Goat.
Merci beaucoup, Paul.
À demain.
Salut. Paul Hood qui est là à chaque début de dernière heure, tout de suite un peu après 18 heures, chaque jour, pour faire un tour d'horizon là, comme ça. OK, après la pause, l'animatrice Anaïs Favron a un petit coup de gueule à faire sur les gens qui s'agglutinent dans les parcs.